Tout au long de cette semaine, Radio Ondaine vous propose du lundi au vendredi à 13h un programme sur les addictions. Une série d'émissions avec des professionnels de santé, des acteurs de la prévention, réalisées par Radio Ondaine en studio ou en extérieur et même autour d'ateliers d'éducation aux médias et à l'information. À retrouver en rediffusion sur le 90.9 FM et sur notre site internet www.radio-ondaine.fr. Pour clore cette semaine autour des addictions sur Radio Ondaine, c'est le docteur Aurélia Gay, psychiatre et chef du service psychiatrie transversale et addictologie au CHU de Saint-Étienne, qui revient pour un focus autour de la dépendance aux jeux d'argent et de hasard.
Alors l'addiction aux jeux de hasard et d'argent, elle est bien identifiée, elle a été bien étudiée scientifiquement, elle est reconnue internationalement, elle apparaît dans nos classifications internationales des maladies. Et on a un dispositif d'offre de soins par rapport à ces problématiques-là. On a une consultation dédiée aux addictions comportementales au sens large, donc les jeux de hasard et d'argent, mais également l'addiction au sexe, l'addiction à Internet, aux jeux vidéo. Et du coup, on peut venir consulter soit au XAPA, donc à l'UTDT, à l'hôpital Bellevue, soit ici. Alors moi, notamment, j'interviens particulièrement sur... Je suis sur-spécialisée dans cette question des addictions comportementales. Soit ici, à l'hôpital Nord, on peut recevoir les patients également. Pareil, il n'y a pas besoin d'être adressé par un médecin, par un confrère. Quoi. On peut venir consulter de soi-même.
Quand on imagine cette dépendance aux jeux d'argent, qu'est-ce qui se passe en fait concrètement dans les patients qui viennent vous voir? Qu'est-ce qu'on vous dit?
Alors, on va retrouver exactement la même clinique que dans les addictions aux substances, en fait. Hein. C'est des patients... Alors, on a des profils un petit peu différents de joueurs qui sont assez bien identifiés, qui sont très parlants dans notre pratique clinique. Mais en gros, ils vont avoir une perte de contrôle vis-à-vis des jeux de hasard et d'argent. Alors, on peut avoir des joueurs de casino comme... des joueurs de paris hippiques au PMU, des joueurs de jeux à gratter. Et ce qu'on voit beaucoup, ce qu'on a vu pas mal émerger, sur lesquels il y a un point de vigilance, c'est tout ce qui va être paris sportif, notamment chez des jeunes joueurs, souvent des jeunes joueurs hommes, et puis est beaucoup majoré par la pratique du jeu en ligne.
Alors, c'est l'idée de l'argent facile, de parier, de cocher, d'imaginer, et puis on peut gagner, on peut être heureux de gagner. Si on parle de vos patients, mais quand est-ce qu'ils se disent ça va trop loin, c'est trop prenant dans ma vie, est-ce que c'est parce qu'on perd de l'argent ou est-ce que c'est parce qu'on ne pense plus qu'à ça?
Alors, il y a un peu de tout ça, et c'est très juste ce que vous dites, c'est qu'au départ, dans le parcours du joueur, dans la rencontre avec le jeu, au départ, il y a cette phase on retrouve souvent une expérience de gain. Alors que ça soit un gros gain, alors c'est toujours à ramener à l'échelle de l'individu, hein, parce qu'un gros gain, ça veut pas dire la même chose en fonction de comment est-ce qu'on vit nos revenus, etc. Ou alors la répétition de petits gains. Et puis, il y a toujours cette espérance de gain. Ils ont tout un tas de pensées erronées autour des possibilités de gain, autour du hasard, etc. Et puis, petit à petit, les pertes apparaissent parce que l'espérance de gain, elle est toujours négative au long cours, hein, dans les jeux de hasard et d'argent. Hein, la maison est toujours gagnante. Et donc, il y a des conséquences financières qui apparaissent, mais ils ne s'en rendent pas compte au départ. Il y a aussi un biais où ils voient plus les gains, les quelques gains qu'ils font, prennent le pas par rapport à l'ensemble des pertes qu'ils ont. Et puis, petit à petit, il y a des conséquences dans les autres domaines de la vie de la personne, plus simplement financière. Ça va se répercuter sur les relations au sein de la famille, avec les amis, le travail, etc. Et c'est souvent quand il y a beaucoup de conséquences dans la vie de la personne que là, ils prennent conscience qu'il y a un souci et qu'ils peuvent avoir alors une demande d'aide.
Alors, plus largement, à l'échelle de la société dans laquelle on vit, on est invité à jouer tout le temps. On regarde la télé, on a les paris sportifs, on ouvre son téléphone, on va sur Internet. Les premières pubs qui apparaissent sont celles qui nous incitent à parier. De votre regard, praticienne, par rapport à finalement cette société qui nous invite à prendre des risques, comment vous le prenez, vous? Est-ce que vous pensez qu'on est sursollicité par rapport à ça?
Bah, effectivement, il y a extrêmement de sollicitations des opérateurs de jeu. J'ai envie même de vous dire qu'ils jouent sur ces pensées erronées, ces distorsions cognitives dont je vous ai parlé juste avant, pour vous inciter à jouer. Dans les campagnes de la publicitaire de la Française des Jeux, ils vont aller jouer là-dessus pour vous inciter à aller jouer plus fréquemment, comme la fameuse campagne 100% des gagnants ont tenté leur chance. C'est vraiment aller jouer sur ces distorsions cognitives. Et il y a des sollicitations en permanence aussi par tous les opérateurs de jeux en ligne. Dès qu'on regarde, par exemple, n'importe quel match, n'importe quelle manifestation sportive, on est mitraillé de sollicitations pour aller parier en ligne ou en réel, quoi. Il y a une forme de responsabilité. D'ailleurs, il y a, comme pour manger 5 fruits et légumes, vous savez qu'il y a un petit bandeau en dessous des publicités qui vous informe des risques liés aux jeux de hasard et d'argent et des numéros que vous pouvez contacter, etc.
Alors, bien sûr, c'est interdit pour les mineurs, mais j'imagine que vous avez aussi peut-être eu écho ou des mineurs qui sont accompagnés ou pas d'ailleurs, qui viennent vous voir avec ce problème de dépendance à ce jeu pour les gains faciles.
Alors, moi, je reçois pas de mineurs, mais je sais qu'au niveau de la CJC, ils ont eu justement une demande croissante, alors de mineurs ou de tout jeunes adultes. Par contre, je reçois des tout jeunes adultes qui ont une problématique beaucoup dans ces profils-là d'addiction aux paris sportifs, souvent en ligne. Et quand on questionne les joueurs sur leur parcours, leur rencontre avec le jeu, leur parcours avec le jeu, très souvent, alors ça dépend un peu des profils, mais c'est pas rare qu'on puisse retrouver des personnes qui ont justement rencontré le jeu à l'adolescence, qui ont commencé à parier à l'adolescence.
Aujourd'hui, toujours de votre regard de praticienne, est-ce que l'État fait assez pour lutter contre ces addictions aux jeux d'argent et plus largement les addictions ? Est-ce qu'il n'y a pas des contradictions finalement dans les propos et les choses mises en place ?
Alors, je pense qu'on pourrait faire mieux, effectivement. Il y a des intérêts contradictoires, par ailleurs, entre les différents ministères. Et on sait que même, pour sans parler des jeux d'argent, pour l'alcool, il y a un poids fort des lobbies alcooliers. Notamment, on a beaucoup de mal à faire institutionnaliser, enfin, faire reconnaître au niveau de l'État le Dry January. Vous savez, c'est le mois de janvier sans consommer d'alcool. Autant on arrive à le faire pour le mois sans tabac, c'est compliqué pour l'alcool. Et on sait que c'est parce qu'il y a des intérêts contradictoires, notamment économiques, financiers.
Alors, si on parle d'addiction comportementale et les jeux d'argent et de hasard, quel est le soin que l'on peut donner aux patients ?
Alors, ça va être beaucoup une prise en charge en psychothérapie, avec très souvent un accompagnement social, parce que c'est pas rare qu'il y ait des conséquences financières, etc. Pas mal de choses à mettre en place au niveau social. Et il peut y avoir il n'y a pas de traitement médicamenteux de l'addiction aux jeux de hasard et d'argent. Par contre, assez fréquemment, les patients peuvent présenter une pathologie psychiatrique associée, dépression, troubles anxieux ou autres. Et là où parfois il faudra un traitement médicamenteux de cette pathologie psychiatrique. Sinon, l'addiction en soi au jeu de hasard et d'argent, ça va être beaucoup de la prise en charge en psychothérapie. Tout ce travail motivationnel dont on a parlé, d'amener les patients à prendre conscience du trouble et à changer ensuite, l'amener au changement, qui doit venir du patient lui-même. Et après, on va aller, c'est beaucoup des psychothérapies de type thérapie cognitive et comportementale, où on va aller travailler sur ce qui est les déclencheurs de craving, d'envie de jouer, les situations qui vont les amener à jouer, qui peuvent être des situations extérieures, passer devant tel bureau de tabac, comme des états émotionnels, les conflits, je suis pas bien, je suis stressée, je suis angoissée, et quand je vais jouer, ça me permet de m'apaiser. Donc on travaille sur les déclencheurs et on essaie de trouver des solutions alternatives. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Comment je peux lutter contre cette envie de jouer? Qu'est-ce que je peux mettre en place, en substitution? Et on va aussi travailler, on va avoir un travail cognitif un peu particulier sur justement toutes ces pensées erronées, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon des distorsions cognitives qu'on va avoir autour de la notion de hasard et des jeux de hasard et d'argent qui vont entretenir les conduites de jeu.
Alors, si l'on revient plus largement à la dépendance, à l'addiction et au désir de soins, la volonté du patient est primordiale. Sa volonté est obligatoire pour finalement s'assurer d'un bon suivi, d'un bon déroulé d'accompagnement. Forcer quelqu'un à venir, est-ce que c'est une solution ?
Alors, forcer, on n'arrivera pas à amener quelqu'un à changer en le forçant. On ne peut pas aller lutter contre les... Il ne faut pas aller se confronter. Par contre, on peut inciter quelqu'un à se soigner. Et encore une fois, ça fait partie de notre job à nous, en tant que soignants, d'amener le patient à changer. On ne peut pas dire « Oh, il n'a rien envie de faire, on s'en occupe pas ». Non, c'est à nous d'aller solliciter, d'aller chercher cette motivation. Des fois, elle est très, très tenue. Hein, mais c'est à nous d'aller amener le patient à changer, d'aller... qui commence à réfléchir, à prendre conscience des conséquences négatives dans sa vie, de la consommation, du comportement de jeu, de sa perte de contrôle, et de l'amener petit à petit à changer.
Ce projet est réalisé par Radio Andenne et soutenu par la préfecture de la Loire dans le cadre de 1000DK, la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives.